Avec vous un psaume cet après-midi, un psaume qui a été écrit par David, c'est le psaume 103. J'en ai parlé un petit peu ce matin, mais on va en parler un peu plus cet après-midi. C'est un psaume qui a été écrit par David. David, c'est quelqu'un qui est passé par des circonstances de vie diverses et variées, un peu comme Paul l'écrit. Lui aussi pourrait dire « J'ai connu l'abondance et j'ai connu la disette », même après la royauté. Quand il se retrouve à fuir son propre fils s'est retourné contre lui. Son propre fils a tenté de faire retourner le peuple entier contre lui. Et David n'a pas eu d'autre choix que, sur ce moment-là, de fuir. Et il dépendait même du bon vouloir de son propre peuple pour ses propres besoins personnels. Lui, le roi, se retrouve à mendier le pain. Ça, c'était une circonstance de la vie de David. David a connu, bien sûr, l'abondance quand il était aux commandes du peuple d'Israël, quand il était dans son palais. Peut-être que dans ces moments-là aussi a-t-il connu des moments de lassitude, des moments difficiles, on ne sait pas. Et ce psaume, on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles il a été écrit. Alors on peut imaginer, peut-être qu'il l'a écrit aussi à la fin de sa vie, où il est mort malade, David. On a l'écriture nous parle qu'il était alité et que rien ne pouvait le réchauffer. Il était dans le froid, donc est-ce que c'était de la fièvre qu'il avait, on ne sait pas trop. Mais sa vie s'est terminée aussi dans le combat, quelque part. C'est un peu le résumé de sa vie aussi à lui, à David. Toute sa vie, il a combattu. Et à la fin de sa vie, il se retrouve il a froid. Il a froid. Il a besoin d'être réchauffé. On ne sait pas dans quelles circonstances il a écrit ce psaume. Mais on peut imaginer, peut-être dans des circonstances difficiles, que c'est pas toujours facile de bénir Dieu. Mais David, il avait quelque chose dans son cœur. Et il savait des choses qu'on ne peut pas savoir si Dieu ne nous l'a pas révélé. David savait des choses sur Dieu que rien ni personne ne lui a dit. Il a juste expérimenté, lui seul, avec Dieu. Et il avait des assurances. Et quels que soient les moments de sa vie, est-ce que c'était des moments de lassitude? Est-ce que c'était des moments où il était dans le besoin? Est-ce que c'était des moments où il était poursuivi, où il était seul, il n'avait plus d'amis? Est-ce que c'était un moment où, avant la royauté, il fuyait Saül qui voulait le tuer? On n'en sait rien. Mais il avait cette assurance que Dieu était pour lui comme un père et qu'il prenait soin de lui dans toutes les circonstances de sa vie. Après, c'est un homme. Et peut-être que par moments, il a aussi été découragé. En tout cas, ce psaume, on peut le comprendre un peu de différentes manières selon les circonstances dans lesquelles on peut imaginer qu'il l'a écrite. Et ces paroles, eh bien, commencent par cette directive. Il essaye de s'exhorter lui-même. Il exhorte son âme à bénir l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je m'arrête là. Il exhorte son âme à ne pas oublier ce que Dieu a fait pour lui. On va le voir un peu après. Mais combien de fois sommes-nous enclins justement à oublier? Peut-être pour cet après-midi, pour quelqu'un, il ne connaît pas cette grâce. Il ne connaît pas cette protection. Il n'a pas cette assurance que Dieu prend soin de lui, parce qu'il ne lui appartient pas. Mais celui qui appartient à Dieu, il sait que Dieu prend soin de lui. Et il sait reconnaître toutes choses comme étant des grâces de Dieu. Et on va le lire ici, David a besoin lui-même, comme quoi ça peut arriver à tous, hein, une mauvaise passe. On peut tous être découragés à un moment donné. Mais David, il exhorte son âme à se ressaisir. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. Pourquoi? Parce que sans rappeler, est un bon moyen pour reconsidérer l'œuvre de Dieu et aussi se faire du bien. Et ici, derrière, il va rappeler, les trois prochains versets sont assez étonnants parce qu'ils décrivent parfaitement l'œuvre de Dieu pour les hommes. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète, on en a entendu parler ce matin, ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dans ces simples descriptions, on y retrouve finalement le résumé d'une vie de disciple. Avant de connaître Dieu, il était dans le péché. Et Dieu est prêt à intervenir. Il pardonne. Parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Ensuite, il guérit. Parce que celui qui est réconcilié avec Dieu, on voit aussi à travers les évangiles, Jésus était toujours prêt à guérir, à opérer sa guérison. On a le fait qu'il rachète. Et là, pour les Juifs, ce mot-là, il a une importance particulière, parce que dans le rachat, il y a l'identification. Et derrière ce simple verbe « il rachète », il faut imaginer ce que David, c'est là où on voit aussi toute l'inspiration du psaume, c'est qu'à travers ce simple verbe « il rachète », il ne peut pas être question d'une autre personne que de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui s'est identifié à nous. Nous qui sommes des pécheurs, nous qui sommes privés de la gloire de Dieu, parce que nous sommes nés dans le péché. Et si dans notre vie nous nous laissons aller à nos mauvais penchants, si nous nous laissons aller sans résistance particulière, eh bien notre chair nous amène à faire des choses que Dieu désapprouve, tout simplement. Quel que soit le domaine. Que ce soit le domaine du pardon, que ce soit que parce que voilà, je nourris quelque chose contre quelqu'un, ça va être de la colère, ça va être des mensonges, ça va être, pour certains, ça va être le vol, pour d'autres, ça va être l'autodestruction. Que ce soit d'une manière lente ou courte, hein, quand je commence à abîmer mon corps, quelque part, c'est le corps que Dieu m'a donné. Si je n'en prends pas soin, ça veut dire que j'abîme le corps que Dieu m'a donné. Alors on peut être des fois dans certaines luttes, parce qu'on est prisonnier après de certains liens, et on a besoin d'avoir une délivrance, on se sent un peu comme emprisonné par certaines choses, et on n'arrive plus à s'en sortir, même on en souffre quelque part. Et sans, tristement, il y en a qui se détruisent. L'alcoolisme des fois a raison de certaines personnes, et c'est ainsi que la personne s'auto-détruit. Le Seigneur, son désir, c'est de ne pas nous laisser dans cette situation. Et la personne qui crie à lui, quand un malheureux crie, il le délivre, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et ici, il peut le faire, parce que Jésus-Christ, il s'est identifié à nous. Parce que, comme on l'a chanté, de son trône de clarté, il est descendu dans nos ténèbres. Il est venu marcher au milieu de nous, homme pécheur, homme qui était loin de Dieu, homme qui avait méprisé Dieu, qui avait refusé Dieu, et qui, de par ce refus, de par ce mépris, ne savait plus distinguer leur droite de leur gauche. C'est une conséquence directe du fait de mépriser la parole que Dieu nous dit, parce qu'il nous fait connaître ce qui lui est agréable, il nous fait connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. À partir du moment où on s'en écarte, comment savoir ce qui sera bon et ce qui sera mauvais pour nous? On va y aller à tâtons, et bien souvent, on s'en mord les doigts parce qu'on prend de mauvaises directions. C'est une conséquence directe que de refuser de croire dans les paroles que Dieu nous a laissées, dans sa parole, dans le Saint-Livre, comme on l'a chanté aussi ce matin. Dieu nous a laissé tout ce dont nous avons besoin dans sa parole, pour savoir, pour comprendre. Et à nous, de l'apprendre et de nous en nourrir et d'apprendre à faire sa connaissance. Jésus est venu s'identifier à nous. Il a marché parmi nous. Mais à la différence de ce que nous sommes, lui, il était le chemin, la vérité, la vie. Tout autour de lui, il a fait du bien. À tout le monde. Il a pardonné. Il a guéri. Il a soulagé. Il a donné une parole de réconfort. Il a consolé. Il a ouvert ses bras aux petits-enfants. C'était lui le Seigneur. Il a marché au milieu de nous. Il était cette lumière au milieu des ténèbres. Et pourtant, les hommes ne l'ont pas reçu. Les hommes ne l'ont pas reçu, ils l'ont racheté. Mais c'était voulu de Dieu. Ça faisait partie d'un plan que Dieu avait déjà établi. Il fallait qu'il soit ainsi méprisé. Il fallait qu'il soit rejeté. Il fallait qu'il soit insulté. Il fallait qu'il souffre jusqu'à la croix du calvaire, donnant sa vie parce qu'il nous aimait pour nous racheter. C'est le rachat. Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Et c'est parce qu'il l'a fait qu'aux yeux de Dieu, on peut être pardonné. Derrière ce simple verbe que nous lisons dans ce psaume, il y a tout ça. Celui qui est racheté, il peut vivre le verset 4 sur la terre, il le vivra une deuxième fois dans le ciel. Il te couronne de bienveillance et de compassion. C'est là le bien-être du chrétien, de celui qui a compris le sens de ce que Jésus avait fait. C'est là le bonheur de celui qui, on va le voir un peu, qui réagit bien à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu lui dit à travers la parole, à la révélation de Dieu sur son propre péché. Il va pouvoir saisir ce rachat que Jésus fait et être réconcilié avec Dieu. Et ensuite, Dieu n'est plus son juge, mais il est son Père céleste qui l'entoure de sa bienveillance, de sa compassion, et qui va le rassasier de bien dans la vieillesse, qui le fait rajeunir comme l'aigle. Et là, il est question quelque part d'une dimension éternelle, parce que s'il est question de rajeunir comme l'aigle et d'être rassasié de bien dans la vieillesse, forcément, ça ne peut pas nous parler d'autre chose que de l'éternité. Un jour, celui qui a choisi de faire de Jésus-Christ son Seigneur, son Maître, il ira au ciel. Et il sera couronné lui aussi. Jésus, il est venu sur la terre, on l'a couronné, mais pas d'une belle couronne, une couronne d'épines, une couronne de malédiction. Et nous, quand on ira dans le ciel, quand on ira chez lui, ce ne sera pas une couronne de malédiction qu'il nous donnera. Ce sera une belle couronne de justice, celle qui nous est réservée, celle qui est réservée à celui, à celle qui a décidé de combattre ce bon combat de la foi, que de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ainsi que, pour l'éternité, le chrétien, il a cette assurance de se réjouir pour l'éternité, d'être rassasié de bien pendant une vieillesse qui ira en rajeunissant, une vieillesse qui ne finira jamais. Et bienheureux est celui qui ainsi fera partie de ceux qui iront à la rencontre du Seigneur. Je vais continuer un peu. Verset 6, « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. » Quelque part, si on connaît un peu quelques versets clés dans la parole, on pourrait se dire, mais tiens, c'est bizarre, hein, le verset 10, il se contredit avec un verset que Paul écrit aux Romains qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ici, je lis, il ne nous traite pas selon nos péchés. Ah bah alors, la Bible se contredit ? Ici, on vient de lire tout un passage qui nous parle de Dieu, finalement, des qualités de Dieu. Et des fois, toujours même, quand on est en proie aux difficultés, aux lassitudes, comme je l'introduisais tout à l'heure, ce que David essaye de faire ici, c'est de ne pas regarder à ses problèmes présents, mais à de regarder à celui qui prend soin de lui, à celui qui veut lui pardonner, à celui qui lui tend la main peut-être encore une fois. Ici, David veut se rappeler qui est celui qui a sauvé sa vie. Et il peut le dire, qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, parce que David avait péché et il a entendu de la part d'un prophète que ses péchés étaient pardonnés. Là encore, on en arrive toujours au même endroit, c'est la croix. C'est la croix du calvaire, c'est là où Jésus a pu obtenir d'une manière éternelle et universelle le pardon des péchés, parce qu'il a donné sa vie. Oui, celui qui reste, qui demeure dans son péché, il mourra. Mais celui qui se repent de ses péchés, il aura la vie, parce que Dieu veut lui pardonner ses péchés. Et c'est exactement ce que nous lisons ensuite à partir du verset 11. Vous remarquerez une expression qui revient trois fois, pour ceux qui le craignent. Je lis, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il le sait tellement bien qu'il a été lui-même un homme. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. » Ici, on a vu juste précédemment que Dieu était intrinsèquement bon. Dieu est amour, c'est écrit ailleurs dans la parole. Dieu aime tous les hommes, et c'est parce qu'il aime tous les hommes que Jésus-Christ est venu sur la terre pour mourir pour tous les hommes. Ça, c'est un fait incontestable. Par contre, tous ne bénéficieront pas de l'amour de Dieu, parce que tous ne choisiront pas de croire en ce que Jésus-Christ a fait. Et tous ne prendront pas forcément au sérieux ces paroles. Ma prière est que cet après-midi, ce ne soit pas votre cas, que de ne pas prendre au sérieux la parole de Dieu. Est-ce que je crains l'Éternel au sens, est-ce que je respecte Dieu? Est-ce que j'ai dans mon cœur ce profond respect? Est-ce qu'il y a dans ce cœur, dans mon cœur, cette humilité que de dire, moi je suis qu'un homme, bien petit dans tout ce monde et cet univers, si on va encore au-delà. Et Dieu, c'est lui qui a fait tout ça. Et il y a deux attitudes possibles. Soit je reçois ce que Dieu me dit, soit je reçois ses paroles. Je ne fais que donner que quelques commentaires à un psaume qui a été écrit, qui a été inspiré par Dieu. Soit j'accepte le fait que oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin d'être pardonné. Et ce psaume nous le répète, que nous pouvons nous approcher de lui. Parce que ce que je viens de lire, là, c'est du verset 11 au verset 18, nous rappelle l'immensité de l'amour de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace. La bienveillance de Dieu est efficace et le sang de Dieu, le sang de Jésus-Christ qui coule à la croix, il est efficace. Ça, c'est sûr. Et c'est une grande preuve encore de l'amour de Dieu. Lui qui est descendu de son trône pour venir jusqu'à nous, pour mourir, nous prouve l'immensité de son amour parce qu'il peut racheter le plus vil des pécheurs. On en a encore la preuve quand on lit les évangiles, quand un brigand aux côtés de Jésus va faire une simple prière. Et Jésus lui dit qu'il sera avec lui dans le paradis. Ce n'était pas un enfant de cœur, et pourtant Dieu lui a pardonné son péché. À combien plus forte raison, nous, peut-être cet après-midi, qui ne sommes pas jusque-là, moi je l'espère, Mais ici, on a cette preuve de l'immensité de l'amour de Dieu, de ce Dieu qui veut non pas être un juge, mais être un père qui a compassion de ses enfants. Mais ses enfants ne sont que ceux qui le craignent, ne sont que ceux qui prennent au sérieux ses paroles, ne sont que ceux qui décident de réaliser que Dieu existe et de réaliser qu'ils sont que des hommes, des petites poussières dans ce monde. Et c'est ce que nous lisons aussi au verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. L'herbe, ça passe vite. Une fleur se fane vite. Et pourtant, on lit dans la parole que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 28, que Dieu habille ainsi le lys des champs et il nous encourage à ne pas nous inquiéter. Pourtant, nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'une petite fleur qui va vivre combien de temps ? Qu'est-ce que la vie d'une fleur à l'échelle de la vie d'une personne ? C'est une poussière. Et pourtant, Dieu nous dit qu'elle est bien habillée. C'est lui-même qui l'a habillée. Et il nous invite, à nous qui lui appartenons. C'est le privilège du chrétien, de l'enfant de Dieu, de savoir que Dieu s'occupe aussi de lui au même titre que la fleur. Et nous sommes comparés à ces fleurs. Et il nous faut réaliser que Dieu, ce qu'il désire, c'est nous entourer, nous faire du bien, nous encourager, nous donner la consolation dont nous avons besoin. Mais il nous faut simplement l'accepter. Il y en a qui vont accepter et il y en a qui ne vont pas accepter. J'aimerais qu'on lise ensemble, gardez la page, hein, dans le premier livre de Samuel, un reproche qui est fait au premier roi d'Israël. C'est au chapitre 15 et verset 22. Saül est l'exemple typique de ceux qui méprisent les paroles de Dieu. Dieu lui avait donné des directives et il n'a pas écouté. Et il a essayé de se justifier dans sa religiosité. Et ici, Dieu va dépêcher quelqu'un, un prophète, qui s'appelle Samuel, pour lui expliquer les choses. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. C'est une forme, une manière d'expliquer à Saül qu'il était dans la religiosité. Ce qu'il attirait, c'était la forme. Et Dieu regarde au fond, il regarde au cœur. Mais il continue, et il le prévient. Il est prévenu de son comportement, de ce qu'il peut nourrir ensuite. Et il lui dit, la rébellion vaut bien le péché de divination, et la résistance vaut l'injustice. Et les théraphimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. J'aimerais que cet après-midi, on ne soit pas dans ce cas de figure. Le Seigneur nous parle, et peut-être nous a parlé plusieurs fois, et nous résistons peut-être. Ici, le texte est très clair. Celui qui résiste à Dieu, il commet un péché qui est grave. Celui qui est rebelle à ce que Dieu dit, il commet un péché que Dieu compare à celui de la divination. Pourquoi on peut les comparer ? Tout simplement parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit et de grand péché, il y a le péché. Et à cause du péché, eh bien, je ne peux pas avoir accès à la présence de Dieu. Il me faut être lavé, il me faut être purifié. Et il n'y a que le sang de Christ qui peut me laver, me purifier de mon péché. Et qui peut ainsi me protéger, me couvrir de la colère, me couvrir du jugement. C'est le sang de Jésus qui fait que je peux passer d'être étranger par rapport à Dieu à celui de fils de Dieu. Dieu veut prendre soin de moi. Mais vous avez remarqué comme moi, qu'il y a des promesses ici dans ce psaume qui ne concernent que ceux qui le craignent. Malgré que tous bénéficient de l'amour de Dieu, il n'y a que ceux qui le craignent qui ne pourront obtenir le pardon parce que ceux qui craignent Dieu, ils auront justement la présence d'esprit de demander pardon à Dieu de leurs péchés. Ils auront la présence d'esprit de considérer le fait que, oui, Dieu, il est prêt à pardonner, mais il est prêt à pardonner quelqu'un qui regrette son péché. Il est prêt à pardonner quelqu'un qui va venir, qui va s'approcher, qui va regretter vraiment ce qu'il est et qui va demander à Dieu du secours. Quelqu'un qui ne va pas chercher à se trouver des excuses à droite, à gauche. Quelqu'un qui ne va pas essayer de compenser ses problèmes en essayant de faire des aumônes, d'aider des gens, etc., de faire des œuvres qui ne servent à rien. Si je ne règle pas le problème principal, je peux faire ce que je veux, je brasse de l'air. Et c'est important. Dieu ne nous appelle pas à compenser notre péché par ceci ou par cela. Dieu nous appelle à régler le péché. Il faut le régler, un point c'est tout. Comment je le règle ? Je m'approche de lui, je lui demande pardon et je lui demande de m'éclairer et je lui demande de me pardonner tout simplement. Mais il faut le reconnaître dans son cœur. Il ne s'agit pas de faire une prière religieuse. Parce que là encore, on retombe dans le travers qui est reproché à Saül. On fait quelque chose de religieux, mais ça ne vient pas du cœur. Dieu nous appelle à une prière qui vient du cœur. Quelqu'un qui réalise vraiment. Et je comprends peut-être qu'on ne puisse pas le réaliser seul. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour réaliser vraiment comment Dieu nous voit quand nous sommes dans nos péchés. Pour que nous puissions pleinement lui demander pardon, ce pardon qui, cette demande de pardon, ce qu'on appelle la repentance, qui est vraiment sincère, qui vient du cœur, parce que Dieu nous aura fait réaliser ce qu'on a fait. On a lu au verset 7, il a fait connaître ses voies à Moïse. Et c'est une manière de dire que c'est lui encore qui nous fait connaître les choses. C'est lui qui nous révèle. C'est lui qui va nous montrer que nous avons besoin de sa grâce. Et s'il le fait, ça veut dire que déjà dans notre cœur, il y a un bon état d'esprit. Ça veut dire que j'ai commencé à m'approcher de lui. Alors comme il a vu mon cœur, comme il a vu ma détresse, comme il a entendu ma prière secrète, alors il me révèle, il me montre que je suis pécheur. Et là, je peux lui demander pardon de tout mon cœur. Et il me pardonne et je le saisis par la foi. J'aimerais continuer. L'Éternel, verset 19, a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Dans le psaume 19, verset 2, il est dit que les cieux racontent la gloire et les merveilles de Dieu. Son règne domine sur toute chose. Et ensuite, on voit cet encouragement qui est donné aux anges. Regardez comment les anges se comportent. Parce que ce qu'on voit ici, c'est un homme qui l'écrit, ce n'est pas un ordre. Il ne fait qu'état de ce qui se passe dans le ciel. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. L'armée, les anges, les êtres célestes, la nature même est soumise à Dieu. Tout est soumis à Dieu, sauf moi-même, si j'ai décidé de lui résister. Verset 22, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Et j'aimerais poser cette question, est-ce qu'il domine, oui ou non, sur notre cœur ? Ou est-ce que c'est moi qui domine ? Est-ce que c'est moi qui veux régner sur ma vie, auquel cas je suis un petit roi telé qui ne se rend même pas compte qu'il est lui-même soumis à un autre roi, qui est Satan ? Si je mets le roi des rois sur le trône de ma vie, alors je vais pouvoir moi aussi rentrer dans le cadre des promesses qui sont là. Je vais pouvoir me mettre en sécurité. Je serai en sécurité parce que j'aurai confié à Dieu les rênes de ma vie. J'aurai confié à celui qui veut m'entourer de sa bienveillance tous les moindres recoins de ma vie. Je ne serai pas dans la résistance par rapport à des choses qu'il m'a dit qui n'allaient pas dans ma vie, que je ne veux pas régler. Je suis soumis et quand il va me dire que quelque chose ne va pas dans ma vie, eh bien humblement, je vais lui demander son aide. Et il va intervenir. Quand on réfléchit à tout ce psaume, quand on réfléchit à toute, justement, toute la grâce, toute la bienveillance de Dieu, quand on relit les tout premiers versets, on se rend compte à quel point tout nous vient de lui. Tout nous vient de lui. Que ce soit le pardon, la guérison, le fait qu'on ait pu comprendre ce que Dieu pensait de nous en tant que pécheurs, le rachat, la couronne qui nous attend dans le ciel. Tout nous est donné par lui. Et le vrai chrétien, celui qui a fait de Jésus-Christ son Seigneur, son Maître, il ne peut être que dans la reconnaissance, parce qu'il ne va pas considérer les problèmes du moment, il ne va pas considérer justement les choses qui ne vont pas dans sa vie, mais il va apprendre à considérer qu'en toute chose, Dieu est souverain et maître, que Dieu poursuit une idée bien précise pour chacun et qu'il a en vue quelque chose de bien précis pour chacun. Et le chrétien, il a cette vision-là et il est prêt à accepter les moments faciles, c'est facile à accepter, mais aussi les moments difficiles. Et le vrai chrétien, il est ferme dans sa foi et il sait que Dieu ne l'abandonnera jamais aussi. Même dans les moments difficiles, il peut ainsi exhorter son âme et dire « Mon âme bénit l'Éternel ». C'est là tout le privilège du chrétien qui a cette foi ferme, cette assurance ferme. Et si cet après-midi, tu n'as pas fait cette expérience, j'aimerais quand même que tu puisses la faire à travers cette simple prière. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Peut-être que tu n'as pas expérimenté la grâce de Dieu, peut-être que tu n'as pas expérimenté le fait que Dieu prend soin de toi, peut-être que tu n'as jamais expérimenté la consolation qui vient du ciel. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle parce qu'il t'aime, comme nous l'avons lu dans ses paroles. Il t'aime profondément, mais il t'aime tellement qu'il ne pourra pas te forcer à faire de lui ton sauveur et ton Seigneur. Et il ne pourra pas te forcer parce qu'il se limite dans son amour à ton choix personnel. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, pour ces encouragements, ces exhortations qui nous rappellent à quel point tu as tout donné pour nous. Et tout ce dont nous pouvons bénéficier encore aujourd'hui, n'est que grâce de ta part. Nous ne méritons rien, Seigneur. Tu nous donnes tout. Et quel bonheur de savoir qu'en toute chose, dans notre vie, tu prends soin de nous. Aussi, je veux te prier pour ceux qui n'ont pas cette espérance, ceux qui n'ont pas compris à quel point tu les aimais, ou peut-être qui sont en lutte, en combat dans leur cœur, qui sont en train de réfléchir. Seigneur, je te prie pour eux, pour ces amis, Seigneur, qui n'ont pas réalisé ces choses. Et je te demande ta grâce, Seigneur, pour que par l'Esprit de Dieu, il puisse y avoir de réelles repentances, de réelles conversions, et qu'ainsi ces personnes puissent marcher en nouveauté de vie. Oui, Seigneur, ton désir, c'est de nous faire du bien. Ton désir, c'est vraiment de nous protéger, de nous faire grâce et de nous rapprocher de toi. Ton désir, c'est que nous soyons pour l'éternité auprès de toi. Ton désir, c'est de nous faire du bien, de nous rassasier de bien, encore même nous serons dans le ciel. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces promesses qui sont là. Seulement je te prie pour que chacun puisse réaliser la nécessité de se positionner. Et tends ta main et fais grâce. Merci Seigneur Jésus. Amen.